trees are green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
What am I meant for you?
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ouais, on est reçu. Ça m'écoute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Bonjour Bernard.
Allez, on est au top là, ça y est, tout le monde est là, c'est bien. Ouais, et voici le jeu des 1000 francs. Mais non, ça y est plus, Annette, 1000 francs.
Eh ben, surtout bienvenue sur Voix en expansion. Ça fait longtemps qu'on n'était pas par là. Hein. Et là, on est trop contents. Donc, on est notre petit studio est installé dans une des éco-huttes de Base Nature. Et il y a plein de jeunes. Donc, c'est trop chouette.
Oui, surtout qu'on va parler d'actualité. Et c'est toujours mieux quand ce sont des gens qui vivent l'actualité que nous qui sommes un peu à l'écart, Annette. Voilà. Alors, nous avons un ingénieur son et on a un peu de réverb, il paraît. Je crois que c'est à l'arrière là, de la baffle. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Donc, vous pouvez vous présenter comme ça. Ça, il faut quand même que notre auditeur se rende compte où est-ce qu'on est. Alors, on est où déjà?
Bah, là, on est dans une éco-hutte à Vassy-en-Vercors.
Tu peux nous la décrire vite fait?
Elle est ronde.
Elle est ronde, c'est pas mal, ouais.
Elle est ronde, il y a un puits de lumière, il y a celle-là, c'est la soucoupe, c'est ça?
La
plein
soucoupe.
De petites lumières autour. Enfin bon, l'ambiance est plutôt chouette.
On va partir alors.
Ça fait plaisir.
Donc tu viens d'où, pardon?
Alors moi, je viens de la Chapelle-en-Vercors.
D'accord, du local.
C'est ça.
Ok.
Bah moi, je viens de la Chapelle-en-Vercors aussi.
D'accord. Alors, si vous voulez avoir des gens qui vous appellent, vous pouvez laisser votre 06. Non.
Bah, pareil, je viens de la Chapelle-en-Vercors.
Ah, ça va, c'est pas trop loin, c'est bon.
Saint-Agnan, du coup.
Oh là là.
Et pareil, Saint-Agnan aussi. Du coup.
Voilà, une moyenne d'âge de 18, 19, 20.
Ouais, environ.
Hein, d'accord. Moins. Plus. Ça dépend de la barbe. D'accord. Ok, d'accord. Eh bien, nous, ce qui nous intéressait, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu des curieux avec Annette, on voulait gratter un petit peu par rapport aux événements qu'on a traversés. Alors, on dit les événements. Vous savez qu'ici, quand on dit les événements, c'est pas les mêmes que les nôtres. Vous savez ce que c'est quand on dit les événements ici à Vassy-en-Vercors? Non, c'est 26 juillet 44 en fait. Hein. Voilà. Eh bien, on dit les événements, mais moi, je pense qu'on va pouvoir aussi marquer d'une pierre historique. Ces événements, parce que c'est depuis 2020, et puis on saute de l'un à l'autre, puis d'une année à l'autre, ça commence à durer un peu d'événements, Annette.
Ah ben, ça fait déjà 2 ans d'événements. Hein.
2 ans d'événements, d'accord. Et ce qui nous intéressait, c'était un petit peu de voir au quotidien qu'est-ce qui se passe quand on est étudiant. Vous êtes étudiant ou peut-être travailleur, je ne sais pas.
Moi, je suis étudiant en philosophie à Grenoble.
D'accord, ok.
Alors, moi, je suis pas étudiant, je travaille dans l'animation et le bâtiment.
D'accord.
Moi, je suis en master de psychologie sociale et environnementale à Lyon. Du coup, étudiante en école d'infirmière sur Lyon.
D'accord.
Je suis étudiante en art du spectacle à Grenoble.
En art du spectacle à Grenoble, ben, c'est ça, avec le micro, ça va être compliqué, ouais.
Exactement.
Voilà, ouais. Eh bien, bienvenue à tous, et puis on attaque un petit peu notre sujet, Annette. Moi, je pense qu'on a des choses qui vont illustrer un petit peu, philosophie déjà. Merci, je crois que là, on est dans une période où, justement, peut-être que ça peut nous servir à nous ressourcer ou pas. Comment tu as vécu le truc, toi? Est-ce que c'était concret par rapport à l'approche philosophique?
Eh ben, je trouve que, alors, c'est une période qui qui apporte beaucoup de réflexion sur tout ce qui nous entoure justement. Après moi c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu, notamment à cause des confinements successifs et du distanciel, parce qu'on nous a mis en distanciel l'an dernier pendant quasiment toute l'année, et suivre des cours de philosophie en distanciel, pour moi ça avait aucun intérêt. C'était très 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 compliqué de rester accroché et de se motiver, parce qu'il y avait plus cette démarche de se lever le matin, de faire le trajet jusqu'à la fac, de rencontrer toute cette vie qu'il y a sur le campus, et de rester chez soi finalement devant son ordinateur à écouter un peu de ces voix monotones qui sortent des haut-parleurs d'ordi, quoi. Et c'est
d'accord.
Et philosophiquement j'ai pas trouvé ça du tout intéressant, et j'ai un peu décroché l'an dernier.
Ouais, et là t'as raccroché.
Cette année ça va un peu mieux, oui, parce qu'on est nous dans notre roman on est tout en présentiel. Donc
dans la vie, dans la vie étudiante, en fait, c'est pas que le moment où vous êtes en amphi. Il y a avant, après, on sort du cours.
Oui, voilà. Pour moi, la vie étudiante, c'est pas du tout que les cours, c'est tout ce qu'il y a autour, toutes les rencontres qu'on peut faire, la culture, le social, et voilà, tout ce qui fait la vie étudiante, quoi. D'accord. Et du coup, quand il y a plus ça, quand on est tous confinés, c'est vraiment dur de garder la motivation, quoi.
Ouais. Pour les autres, c'est la première partie qui était le confinement total.
Bah moi personnellement, je sais que suivre des cours en distanciel, ça me dérangeait pas sur le principe, parce que j'avais fait PACES à Grenoble, c'était ça, et que c'était une méthode de travail qui me convenait bien. Après socialement ça reste très compliqué, et en fait on voyait très bien que moi j'étais en L3, donc c'était le moment en psycho où il y a toutes les sélections, donc c'était l'année la plus dure de notre filière. Et en fait, petit à petit, à la fin de l'année, il y avait quasiment plus aucun élève qui était capable de rendre les rendus. On était par groupe, et en fait, dans chaque groupe restait une personne qui travaillait, et toutes les autres avaient décroché. Et les partiels, c'était pareil, il y avait plus grand monde pour les faire non plus. Et du coup, on avait tous été jugés pour nos attributions de master, parce qu'il faut savoir que il y a très peu de gens qui arrivent à avoir un master en psychologie, alors que c'est ça qui nous permet d'exercer en psychologie. Bah en fait, elles ont été faites sur des partiels qu'on a passé tous ensemble, où on pouvait tricher comme on voulait, etc. Donc c'était particulier.
Donc la QV 2020-2021 sera spéciale chez les psychologues, mais elle peut être intéressante aussi.
Bah, je pense pas forcément qu'elle sera, enfin c'est pas forcément, on sera pas forcément des incompétents, mais par contre, on n'a pas été mis dans des bonnes conditions pour apprendre en L2 et en L3. Au tout début, premier confinement, c'était en L2, on n'a pas eu cours. Donc il nous manque un semestre qui est passé à la trappe.
D'accord.
Donc voilà, c'est vrai que d'un point de vue de la qualité de l'enseignement, ça a été compliqué.
Et le fait de faire psycho et d'être dans une situation carrément stressante, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui est très stressant aussi, c'est que petit à petit, la première vague pas trop, mais là, on est dans une urgence qui n'est pas que médicale, somatique, mais aussi psychologique. Et nous, on sait qu'on va rentrer dans un milieu du travail où il y avait déjà pas assez de psy, notamment sur le bassin Grenoble, il y a très très peu de psy.
Alors c'est génial alors, tu vas avoir du boulot.
c'est
bien, la société va mal.
Bah en fait non, parce que du coup les psy arrivent plus à traiter leurs patients. À Grenoble ça devient hyper compliqué d'avoir rendez-vous avec un psychologue. En fait c'est un engagement de prendre un patient. Moi je sais que je vais pas travailler dans la clinique parce que justement je trouve que c'est extrêmement engageant. Des fois t'as la vie de gens entre tes mains quand même, quand t'as des personnes qui sont suicidaires, etc. Très compliqué, et ne pas avoir assez de temps à leur accorder, parce qu'en fait plus tu prends de patients, moins t'as de temps pour toi, pour te ressourcer, et en fait c'est hyper important de se ressourcer. Donc plus on force les psys à prendre de plus en plus de patients, parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un non je peux pas te prendre, j'ai plus de place, en fait on les force à, exactement comme à l'hôpital, comme on a fait à l'hôpital, on les force à pratiquer dans des mauvaises conditions qui est dangereuse pour eux et pour leurs patients.
Oui, parce que déjà toute la partie psychiatrie et autres à l'hôpital, c'est avant déjà le confinement, c'était terrible au niveau des besoins. Enfin, hein, c'était assez horrible, je crois, en France. Et est-ce que, juste une dernière petite question au niveau psychologique, est-ce que les professeurs se sont servis de la situation pour illustrer des choses ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en fait, par rapport au stress que vous vivez ?
Je pense pas, en fait, qu'il se soit... En tout cas, à Grenoble, non.
Non.
Plus dans mon master, mais plus au niveau de la crise environnementale.
D'accord.
Après, en fait, c'est extrêmement vaste, il y aurait énormément de choses à dire, on pourrait passer tous nos cours à parler de la situation actuelle, que ce soit à cause de la crise du Covid particulièrement, ou de ce qui nous attend dans les prochaines années.
C'est ça, donc il y a quand même un effet rebond qui va être compliqué.
C'est l'angoisse, je pense, dans notre profession, quelque part. C'est l'angoisse de se dire qu'on va devoir... Enfin, quand on est psychologue, on voit les gens autour de nous. Enfin, on voit plus facilement quand les gens vont mal, je trouve. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans une société où commence à plus y avoir beaucoup de gens qui vont bien, en fait.
Et tu t'en aperçois, tu, avec les données qu'on t'a données en psychologie, tu commences déjà à te rendre compte des défaillances.
On nous forme à reconnaître les troubles chez nos patients. D'accord. Donc en fait, même si tu n'examines pas tout le monde, évidemment que tu vois des choses dans ta vie quotidienne aussi. Et moi, ce que je vois, c'est que on nous apprend que, en fait, pour être considéré comme ayant un trouble en psychologie, il faut que ça empêche ton fonctionnement dans un des domaines de ta vie. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui dysfonctionnent dans certains domaines, et ça m'interroge sur notre capacité à se relever des...
Post-traumatiques.
Ouais, mais pas que le stress, la dépression, les envies suicidaires, l'anorexie, ça peut se traduire par énormément de choses. Et toutes les personnes qui sont atteintes de troubles, et ça fait des personnes qui sont moins capables ensuite d'être résilientes face aux prochaines crises, de se relever. Et moi, c'est ça qui me fait peur, en fait.
Alors n'hésitez pas, je suis pas tout seul à poser des questions ici, c'est complètement interactif, hein. Si vous voulez y aller, allez-y. Hein.
Et du coup, vous avez eu l'impression d'être en guerre ?
si on est en guerre, vous êtes les soldats, vous êtes devant.
Alors pour ma part, j'ai pas du tout eu l'impression d'être en guerre, j'ai surtout eu l'impression de vivre quelque chose de totalement... irréaliste et surprenant au vu de ce qui a été annoncé, quoi. C'est, je sais pas trop comment le dire, mais c'était pour toute une partie des jeunes, et même pas que des jeunes d'ailleurs, ça a un peu pourri toute une année, voire deux années, voire pour certains ça a créé des troubles comme disait Lou tout à l'heure, des troubles sur le long terme, quoi, et tout ça pour notre santé, je sais pas si c'était vraiment nécessaire.
Okay. Est-ce qu'on peut passer à la santé? Donc, toi, tu es en école d'infirmière.
Ouais, c'est ça.
D'accord, en ce moment, ça va être tendu un peu.
C'est pas tendu, mais c'est bizarre d'arriver à ce moment-là dans la santé. Parce qu'on arrive et du coup, nous, on connaît rien. Et on est directement sous-effectif. À mon premier stage, j'avais pas de cadre. J'avais une infirmière référente qui a été arrêtée pour Covid pendant 2 semaines sur 5. Donc on arrive, on est directement lâché, on s'attend à ce qu'on fasse des choses sans nous donner les clés, parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour nous donner les clés, justement.
D'accord. Là, déjà dans le cadre de tes études, t'es rentré dans le milieu hospitalier ?
Oui, c'est ça. J'ai fait mon premier stage, du coup, en novembre.
Alors, quelle ambiance pour toi ? Qu'est-ce que...
C'était une ambiance assez spéciale, du coup, j'étais en psychiatrie, donc c'était pas la clinique pure. Mais on ressentait quand même la présence du Covid en psychiatrie, parce qu'on avait des tests à réaliser à chaque entrée de patient. Dès qu'un collègue était cas contact, on devait tester tout le service, patient et soignant compris. Donc ça mettait un peu en pause le service le temps qu'on ait les résultats des tests. Les patients dans les chambres, les soignants qui interagissaient entre eux au minimum.
Ça va être terrible, parce que on sait très bien qu'après ça s'enchaîne jusqu'aux patients, enfin les situations de stress de service.
Ça se ressent sur les patients qui sont déjà pas stables de base, vu qu'ils sont accueillis en crise.
Ouais, ok. Tu continues dans la médecine ?
Je continue dans la santé. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on va s'arrêter.
Ok. Alors je vous demande pas le point de vue que vous pensez si médicalement, s'il y avait vraiment un vrai virus, pas un faux virus, etc. et autres. Vous exprimez comme vous voulez par rapport à ça, il n'y a pas de souci, hein. On n'est pas besoin de dire, ça y est, c'est des complotistes, ils sont vaccinés. Enfin, non, on verra les adultes tout à l'heure qui ont des positions par rapport à ça, mais vous, tout à l'heure, tu disais, la crise, ça te semble énorme ce qui s'est passé au niveau du confinement, proportionnellement à la crise qu'il y avait. Alors moi, au début, quand on était confiné, je me suis dit, ça y est, il y a la peste, quoi. Je vais chevaucher les cadavres, ça va être terrible.
C'est vrai que pour le premier confinement, on a tous été un peu surpris, hein. Oui, on savait pas ce qui se passait. Personne ne savait ce qui se passait. Donc, on s'est dit, oui, ça y est, c'est la peste, on va tous mourir, faut vraiment qu'on fasse gaffe, c'est hyper contagieux et tout. Mais, plus le temps passe, plus on apprend quand même que, au final, je trouve que c'est très dur d'avoir d'un point de vue objectif, parce que tout le monde dit tout et son contraire. Et du coup, se faire un avis sur la question, c'est un peu compliqué. Après, que le gouvernement utilise des termes comme ce que M. Macron a dit, on est en guerre, je trouve que ça fait plus de mal qu'autre chose, parce que ça met les gens dans une position une tension, de division, d'insécurité, ça c'est, pour moi, c'est pas un langage approprié pour mettre bien un peuple, quoi.
D'accord. Donc, on est un peu tendu, mais on va se mettre un peu de musique. Hein? Voilà.
HK, mais vous allez la reconnaître.
HK, des locaux, presque. Des locaux. Oui, des locaux. Et grâce à Damien et toute la troupe.
Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Bourneval. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle. Et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié. Jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile. Certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand. Je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul clan. Soyez citoyens sans frontières, de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière, de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, bondissant sur l'étoile, entendez-vous. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, bondissant sur l'étoile, entendez-vous. Oh.
d'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce qu'on est quand même sur le... Annette, je répète pour vos auditeurs, on est sur le plateau du Vercors. On n'est pas très très loin de lieu de combat puisque ici, ça a chauffé dur. Et puis, cette chanson est arrivée aussi sur un plateau grâce au collectif de Damien, donc les souffleurs, hein, les souffleurs et autres, et tous les gens qui ont filé un coup de main. Et alors, ça donne des frissons un petit peu à tout le monde. Alors, en plus, quand c'est joué par HK à Saint-Agnan en Vercors, cette histoire de culture et cette histoire aussi de résistance, Luna. Parce que c'est vrai que la culture et la résistance, c'est peut-être lié, des fois non, hein. Il y a vraiment de la culture et de la, et du savon, on en peut en passer tant qu'on veut. Toi, t'es rentré dans le milieu culturel avec un grand C. Tu voulais faire quelque chose? C'était quoi ton objectif?
Non, moi je suis rentré l'année dernière en L1 en art du spectacle, en fait.
Ouais.
Du coup, c'était pas la meilleure année pour le spectacle, donc ça a commencé, on a eu, genre, je pense, 2 mois de cours. Et donc après, on est passé en confinement et donc tout en distanciel. Donc, on est en art du spectacle. Donc en fait, le but, c'est d'analyser des spectacles et des films. Donc on peut pas aller les voir. Donc on a fait une année de captation, en fait. Donc analyser des films sur petit écran, chez soi, tout seul, en fait. Donc, c'est pas la même ambiance qu'en salle, quand même. Donc, on n'a pas vu un seul spectacle de l'année. Il y avait rien. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui ont décroché aussi, quand même. Moi, je sais que je la retape, ma première année. Parce que c'est quand même. Pas évident. Mmh. Donc là, ça va mieux. On peut les voir, les spectacles. Mais bon, c'est pareil. Il y a des conditions pour voir les spectacles, du coup, cette année. Donc, voilà.
Est-ce que tu penses que la culture a quelque chose à voir avec cette crise? Parce que d'un coup, ça a tout été bloqué. On n'en a plus parlé. Hein, puisqu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire physiquement. Et on s'est aperçu aussi que, finalement, c'est pas grave si on va pas au cinéma, si on va pas au théâtre. Et finalement.
Franchement, la culture, c'est ce qui a servi aussi en grande partie à installer le pass sanitaire aussi, parce que je pense que, le premier truc qui a été mis en avant, c'est on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller voir des spectacles, on peut pas aller au resto, on peut pas aller boire un café, on peut pas sortir. Donc, c'est quand même une grosse partie, on s'en rend pas forcément compte, je pense, mais dans notre vie, c'est quand même une grosse partie, ça prend de la place, la culture. Je pense que si on l'a pas, ça nous manque. Et tant qu'on l'avait pas parce que c'était interdit, on s'en rendait pas forcément compte. Mais là, on l'a pas. Enfin, on l'a pas, mais on peut l'avoir. Mmh. Et là, on s'en rend compte que ça manque à certaines personnes quand même.
Ouais. Des artistes qui ont réagi quand même pendant le confinement, t'en as suivi un peu?
Il y en a pas beaucoup.
Des rappeurs peut-être, non? Ou des...
Non. Non, lui, il a incité. Non.
T'as trouvé que c'était. Ouais.
Non, j'en ai pas suivi beaucoup. Des artistes qui étaient vraiment impliqués jusqu'à la fin. C'est-à-dire que au début, ça s'est impliqué quand il y avait un arrêt total de la culture. Il y a eu des personnes qui sont impliquées, mais qui à la fin restaient sur les idées et qui sont parties dans le fait que si la culture elle est soumise à des passes ou des trucs comme ça, en fait à partir du moment où on a réouvert la culture, ils se sont lancés. Enfin, la plupart des gens sont rentrés là-dedans et se sont dit, c'est pas grave, c'est réouvert quand même à une partie. Et il y a personne qui s'est dit, c'est étrange que ce soit réouvert qu'à une partie de la population et qui sont restés en disant, nous, on ouvre à tout le monde, en fait. Enfin, la culture, de base, il y a 2 ans, c'était pas ça. On présentait pas un pass sanitaire pour aller au cinéma. Et maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais maintenant, avec un pass, c'est la liberté. Mais,
non.
Il y a 2 ans, on rentrait pas en un café avec un papier pour dire qu'on était vacciné.
Vous en avez parlé un peu en cours de ça, ou avec les profs, ou au niveau sociologique, un petit peu de la culture et c'est
pas sociologique. On en a parlé. Moi, j'en ai un peu parlé parce que j'ai un cours qui s'appelle critique de spectacle, en fait, donc atelier du spectateur et de la spectatrice. Et donc pour ce spectacle, on a 10 de spectacles à aller voir. Et donc sur ces 10 spectacles, à chaque fois, il faut qu'on fasse des analyses et des critiques qui seront donc notées et donc qui ça constitue notre note en fait du semestre. Et on en a parlé parce que moi au début de l'année j'avais pas de je suis allée voir la professeure en disant mais si on n'a pas de passe sanitaire est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour les élèves qui peuvent pas aller voir les spectacles et qui du coup peuvent pas faire les critiques et les analyses sur ces spectacles là et en fait il y avait des choses de mise en place si c'était pour conditions médicales mais pas pour opinion en fait.
D'accord.
Donc il n'y avait pas de captation ni
donc,
rien.
Tu sors du circuit si tu n'es pas dans le circuit. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est...
Okay. La dystopie, tu vois ce que c'est la dystopie?
Oui.
Est-ce que tu penses qu'on a vécu un moment comme ça? Comme Fahrenheit 451 ou comme d'autres 1984
Je pense qu'on est encore dedans. Hein.
On est encore dedans, très bien. Bonne réponse. Elle a gagné, on peut l'applaudir, bravo. Elle a gagné, bravo. On est encore dedans, c'était la réponse. Et là, quand même, on s'aperçoit que, comme dans ces grosses dystopies, c'est la culture qu'on, enfin, les écrivains, la première chose qui casse, c'est la culture et le fonctionnement, bien sûr, totalitaire, c'est la culture. Ça te parle ou?
Oui, ouais, ça me parle. Mais justement, j'aurais préféré qu'il y ait des écrivains et des artistes qui se lèvent un peu plus, pas que au début quand la culture était interdite, mais disons qu'au début quand c'était une crise sanitaire, ils se sont levés par rapport à ça, mais maintenant que ça devient plus une crise politique que sanitaire, on n'entend plus trop de monde quand même. Donc,
ouais, il y a peut-être les histoires de casse-croûte, les gens qui veulent continuer à vivre peut-être, et peut-être, voilà.
C'est ça.
Je sais pas. Philosophiquement, donc ça t'inspire un peu, non?
Bah, moi je suis d'accord avec elle, hein. Je trouve que c'est pas du tout justifié d'interdire une... Enfin, c'est extrêmement grave et je pense qu'on se rend pas compte de la gravité de ce qui se passe. Il y aura privé des millions de... Si on rapporte ça qu'au niveau de la France, privé des millions de Français d'un accès à la culture qui est quand même fondamental dans une société. Je veux dire, on peut pas évoluer... Un enfant, par exemple, ne peut pas, pour moi, ne peut pas grandir sans accès à la culture, grandir convenablement sans accès à la culture, et c'est... Et priver des millions de gens de ça sous prétexte qu'ils sont dangereux, qu'ils sont un danger pour les autres parce qu'ils sont pas vaccinés, c'est vraiment, c'est horrible, je trouve. C'est vraiment pas respectueux des libertés, des opinions de chacun, des droits de l'homme et puis même de l'intégrité de chacun, quoi. Je trouve que c'est vachement grave.
On a un bel avenir à naître devant nous, hein. Enfin, c'est eux l'avenir, hein. C'est pas nous, c'est trop tard, mais.
C'est pour ça qu'on a un bel avenir.
Ouais, on a un bel avenir, hein.
Et vous, chacun dans vos domaines, vos revendications, qu'est-ce qui serait important
de signaler,
de dire, de changer?
Alors, c'est l'éducation populaire qui parle. Alors, tu vois l'éducation populaire, hein, animateur, éducation populaire.
Oui, complètement. Oui. Mais je prends le micro parce que je... En fait, ce qui m'angoisse vraiment dans cette crise, c'est le fait qu'on commence en fait à se diviser. Enfin, en fait, on a eu effectivement des infos et son contraire. On a donc Monsieur Macron qui a posé un contexte vraiment très pesant et finalement clivant pour tout le monde. Et on est juste arrêté en fait sur des idées, sur nos croyances en fait. Donc il y en a qui se disent voilà, moi je vais être vacciné, moi je vais pas être vacciné, moi je vais avoir le pass machin. Et oui, chacun on fait ce qu'on veut en fait.
Alors, mais en fait on n'accepte pas de religion, j'ai entendu parler. On revient dans des guerres de religion parce que c'est des croyances, hein.
Ouais, c'est ça.
Il y en a qui croient ferme et définitive, et la science s'éloigne petit à petit parce que la croyance et la science c'est compliqué.
Mais... Et c'est vrai que moi au début quand le Covid est arrivé, en fait, moi, c'est bien tombé parce que j'ai fui la ville et deux semaines plus tard, il y a le Covid qui est arrivé, donc j'ai fait mes petites expériences avec mes potes, etc., confinés, et ça m'avait laissé un peu de temps.
T'étais où, au musée de la préhistoire, non?
Non, à la chapelle en Vercors.
Bon, c'était une expérience.
C'est ouais, ça, c'était... pas très loin. Mais ouais. Du coup, au final, c'était pas une si mauvaise expérience pour moi, ce premier confinement. Et en fait, surtout, j'avais l'espoir. J'avais l'espoir de se dire peut-être que ça va faire se bouger les gens en fait, peut-être que là c'est en train de se tout est en train de bouger et en fait non.
Bah non.
Non, parce qu'en fait on a justement ce clivage qui est venu s'installer et en fait pour revenir sur ta question Annette, on cherche en fait à savoir comment est-ce qu'on peut justement être force de rassemblement et notamment dans l'animation. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que même chaque enfant va aussi arriver avec les idées parfois préconstruites à la maison et des fois accepter la différence c'est compliqué.
Alors c'est vrai que nous on est un peu éducation populaire ici et que de notre époque l'éducation populaire était très reliée avec la politique et que maintenant politique c'est presque un gros mot auquel vous n'avez pas trop confiance ou confiance, je sais pas. Question. Enfin, j'entends la réponse de loin, mais...
En fait, ça fait vachement écho à ce que je peux voir au sein de mon master, parce qu'on est dans un master, donc on travaille majoritairement... 80% de nos travaux en psychologie sociale et environnementale, c'est sur la crise climatique. Donc c'est évidemment politique.
Et pareil, là, on a eu pu faire des travaux sur, par exemple, les non-vaccinés, les anti-vaccins, les pro-vaccins, etc. C'était très intéressant. Et en fait, à chaque fois, on ne peut pas en cours parler de politique. Et sauf qu'en fait, quand tu énonces des sujets comme ça, il y a un moment où ce n'est pas possible de parler de politique. Et en fait, du coup, très souvent, donc les profs ne nous laissent pas parler politique et essayent de ramener le débat à juste notre partie très théorique en psychologie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, en faisant ça, ils nous imposent leur idéologie politique sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, du coup, ils partent de leur point de vue. Et donc, en fait, on est constamment obligé de travailler sur leur propre point de vue sans pouvoir attraper ces sujets-là avec notre point de vue politique et nos idéaux politiques-là. Et par rapport à la question d'Annette... en psychologie sociale, on est très peu, enfin, peu de gens connaissent la psychologie sociale. Je pense que peut-être qu'il y en avait dans certains d'entre vous qui n'avaient jamais entendu ce mot jusqu'à présent. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé et les mesures gouvernementales sont en grande partie reliées aux travaux qui existent depuis les années 40, qui ont commencé au moment de la Seconde Guerre mondiale dans ce domaine. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que l'homme n'agit pas en fonction de ce qu'il pense, il pense en fonction de ce qu'il agit.
Attention, prenez une feuille, les auditeurs. Prenez une feuille, vous avez 5 minutes, mais on va être aidés. Reprends la phrase, s'il te plaît.
Donc, l'homme ne pense pas en fonction de, enfin, n'agit pas en fonction de ce qu'il pense. Donc, c'est pas penser et je fais, c'est je fais et donc je pense. Donc en fait, pour amener des gens à produire un comportement, ce qui est important, c'est pas de les persuader que c'est le bon comportement, c'est de leur faire ce comportement à leur insu, et ensuite eux t'expliqueront pourquoi c'est bien de faire ce comportement.
D'accord.
Et en fait, c'est ça, et c'est exactement ce que le gouvernement a fait quand il nous a fait signer une autorisation de sortie pour pouvoir sortir dehors. En fait, oui, ça sert aux policiers à pouvoir nous contrôler, mais c'est quand même assez facile de falsifier le truc. Par contre, nous, ça nous prépare dans notre tête qu'on a une heure pour sortir, on a préparé ce qu'on va faire, etc.
Quand travail de masse sur la masse.
Ouais.
Un travail
tout
sur
à fait.
Le groupe sur la masse, ouais.
Et par exemple, quand ils ont fait passer le pass sanitaire, ils ont commencé par faire passer le pass sanitaire. Les tests étaient encore gratuits et c'était pas un pass vaccinal, c'était bien un pass sanitaire. 2 mois plus tard, ils enlèvent les tests gratuits. 4 mois plus tard, ils enlèvent les tests tout court. Maintenant, c'est juste pas vaccinal. Mais s'ils avaient essayé de faire passer le pass vaccinal en premier, je suis pas sûr que ça serait passé. En fait, quand on a dit, à chaque fois qu'on dit oui à une mesure, on accepte la suivante. Et petit à petit, comme ça, on mène les gens à ce qu'on veut.
D'accord.
Et ma revendication, ce serait en fait que on a énormément d'outils et on sait comment fonctionne le cerveau humain. Et en fait, à part les grands politiques et les grands chefs d'entreprise, etc., personne ne s'en a, enfin, on ne les prend pas. Personne ne lit vraiment nos travaux. C'est quand même très compliqué de faire, quand on fait des campagnes de sensibilisation, etc., d'arriver à faire comprendre aux gens que c'est important.
Là, on arrive dans le politique, là, presque.
Et ouais, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'on fait des outils qui sont très bien, on développe des outils qui sont incroyables depuis les années 40, mais en fait, à part ceux qui, quelque part, veulent qu'on croit pas au réchauffement climatique, veulent que l'État soit quelque chose de très paternaliste et de très autoritaire, personne ne les utilise. Et donc, si on leur laisse des armes aussi puissantes que celles-là et que nous, on se les accapare pas, en fait, quelque part, il faudrait mieux arrêter de faire de la recherche en psychologie.
Ah, tu veux dire qu'en fait, on est tous bien manipulés, quoi.
Alors là, il y a peut-être une petite chanson là-dessus, je pense. On en va en trouver quelques-unes. Moi, je crois qu'on peut faire référence au, je sais pas si tu connais le petit slash sur le meurtre de l'esprit qu'on avait regardé, où en fait, il y a aussi cet effet, douche froide. C'est-à-dire, d'un coup, on te dit ça va mieux, hop, une petite échelle, hop, ça va mieux, hop, et t'acceptes de plus en plus. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on remonte un peu la clé. De pire en pire vers une situation qui est dystopique, hein, quand même, moi je trouve, hein, et qu'on ne se serait pas douté, en tout cas pendant ma jeunesse, dans les belles années, les années 70, où les gens revendiquaient beaucoup plus, même au niveau éducatif. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau éducatif, c'est un peu pareil qu'en psychologie, puisque c'est très lié. Il y a énormément de chercheurs qui ont montré comment voir l'émancipation de l'individu pour pas qu'il tombe justement et qu'il soit lui-même et qu'il soit aussi acteur de la société. Et là, en fait, c'est pas ce qu'on demande. Avez-vous des réactions là-dessus? Parce qu'il y en a qui vont boucher les trous avec des mains, là. Par exemple, je crois que quand tu vas être dans le médical ou autre, c'est vrai que dès qu'on est, on a le résultat de ce qui fuit, quoi, en fait, hein. quand ça arrive aux urgences ou quand ça arrive dans les services de psychiatrie, et on était déjà bien atteint avant la crise. Hein, c'est, il y avait déjà une belle chose. Mais j'en dirai pas plus. Est-ce que vous voulez rajouter un petit peu? Alors une petite pause pour respirer un peu. Bon, d'accord, une petite pause.
Ode à l'état.
Oh.
Ode à l'état d'Oskawa.
Je crois que pendant la crise, ils n'ont pas arrêté, par contre. Pendant la crise, d'Oskawa n'a pas arrêté d'hésiter. Oui.
Ode à l'état. Ode au plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple mais qu'il se taise, puisqu'il représente la tristesse, comme un bouquet sur un platane, et plus il gagne comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder. L'État est utile comme un trou dans la tête, il nous suicide depuis la tour de Babel, elle dit briller comme une émeraude juste pour guider les âmes en haut. Elle essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Nemrod. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle Cain, me dit que je suis son frère Abel. Cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse. Car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice. Et nique sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage qui n'ont jamais ému de cœur. Même en tripotant des filles cupides que le pouvoir rend délirique. En tripotant moche et stupide, bref, des politiciens classiques. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs? Peut-être bien car c'est un clown qui a dû créer les restos du cœur. Dis-moi quelle chaleur d'âme t'espère de son manteau de glace. Alors écrasons l'infâme, c'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette au bout de leur ficelle. Alors coupons les tentacules, cette putain de mafia officielle. Et ensuite les testicules des dynasties politiciennes. Te rappelles comment tu me parlais mal, Paris brûle-t-il bientôt? Et on commencera par les nains, je suis là pour dégrader l'État. Qu'on voit sa garde prétorienne, ils présentent leur première dame avec la grâce qu'on prête aux reines. Si on est masqué dans les manifs, c'est à cause des gaz lacrymogènes. Un mythe gros, les politicos sont des mythos. Guillotinez-les tous, place publique. Là où même Dany le Rouge est devenu comme Bendit. Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte anticapitaliste qu'un prêtre pédophile, terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre. Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain, les Martin Luther King pour faire la violence en paix. Demandez-moi le chemin. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle.
Oh, vous êtes bien sur Voix en Expansion.
Sur Radio Diwa, sur 107.5.
Avec un petit son derrière qui nous rappelle que les Simpsons sont pas loin. Justement, d'Oskawa disait une manipulation des masses pour leur petit plaisir personnel ou autre. Tous les GAFA et autres sont toujours dirigés par les mêmes actionnaires, apparemment. Donc tout le monde a suivi tout sur Facebook, sur machin. Est-ce que vous suivez un peu tout ça, là? Vous servez, évidemment, quand on est tout seul, on se sert de son portable. Est-ce qu'il y a une manipulation là-dessus?
Bah, pour prendre un exemple, moi j'essaie quand même de rester un peu connecté pour voir ce qui se passe quand même. Et un exemple tout bête, hein, sur Instagram ou même sur Facebook, la moindre publication, je sais pas si vous avez remarqué, la moindre publication qui fait allusion de près ou de loin au vaccin ou au pass sanitaire, il y a une petite bandelette qui s'affiche avec retrouver toutes les informations sur le Covid et sur la vaccination. Sur tout, n'importe quelle publication, qu'elle soit politique ou pas, culturelle, la moindre, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui détectent de quoi on parle et qui en fonction vont te mettre là-bas.
Et qui te détecte toi aussi, je pense.
Bah, je pense que du coup, oui.
Hein, parce que l'algorithme, il y a... que t'as regardé ça, qui en même temps, alors on dit qu'il y a la complaisance aussi de l'algorithme qui t'envoie des choses que t'as envie de dire oui, c'est bien. Comme ça, il utilise ton cerveau disponible.
Non, pour rien, YouTube a censuré un député de la France Insoumise, ouais, qui était contre le vaccin. Ils l'ont censuré. Bon, ils l'ont remis parce qu'il y a eu des pressions derrière, mais il est tout d'abord censuré. Quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des choses qui sont pas censurées. Je le mettrais en ligne. Et quelqu'un qui est à chaque fois c'est un peu... C'est des bandes dessinées, comme ça va être drôle. Ouais, c'est un peu comme les sous-parcs, là. Il fait des petits dessins et tu te dis, waouh, c'est extraordinaire parce qu'il est pas censuré. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une forme de choses aussi, que même en disant des choses vraies, des fois, on peut aussi... voilà. Mais la censure, c'est qui l'amène? C'est ça, le compliqué, puisqu'on est dans le dystopisme.
Bah, pour moi, c'est les GAFAM, enfin, c'est les grandes entreprises. Pour moi, c'est plus les États n'en sont plus au pouvoir, là. C'est les grands patrons. On est dans la société de l'argent roi et de la société de contrôle, en fait. C'est ce qu'on apprend en philosophie cette année.
D'accord. Et nous, on est quoi, alors?
Nous, c'est-à-dire nous?
Nous, ceux qui leur donnent l'argent. On est qu'un produit, on est...
Bah, pour eux, oui, je pense qu'on est, ouais, on est un peu des pigeons, quoi.
Eux, ils sont au-dessus. Alors, il faut savoir que il faut savoir par exemple que le comité de défense, c'est un comité de défense qui s'occupe, qui a rien à voir avec la médecine, ni rien du tout, et que en fait, c'est pas du tout démocratique. Vous savez l'histoire, non?
Conseil de défense.
Le conseil de défense. Merci de préciser. Donc, ça vous choque pas, ça?
Pour ma part, si, totalement. Qu'il y ait un gars, on est censé être en démocratie, la République, le pays des droits de l'homme, et c'est un mec qui décide tout seul dans un conseil où personne peut voir ce qui se passe à l'intérieur, où dedans il y a le général des armées, la ministre des armées et le patron de BlackRock. Donc
et ouais. Et puis des gens qui sont impliqués dans le business, quoi.
Voilà.
Ok. C'est pas sur ces mots qu'on va finir, mais politiquement, est-ce que je demande pas votre avis, mais on voit quand même. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec les outils qu'on a actuellement?
Alors, je pense que oui, on a tous quelque chose à faire, quel que soit le milieu dans lequel on est. Et moi, par exemple, à travers l'éducation, et notamment l'éducation populaire, que je découvre depuis peu et que je trouve très passionnante, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'elle peut être utile à la fois pour éduquer des enfants, mais pas que, en fait. C'est toute une démarche d'éducation de notre société, finalement, de savoir comment est-ce qu'on va s'organiser autour d'un projet. En fait, avec l'éducation populaire, il y a beaucoup de manières de l'apporter pour avoir quelque chose qui fonctionne. Malgré ces différentes opinions politiques qu'on peut avoir.
J'ai l'impression d'entendre Annette il y a 30 ans.
Bah oui, moi je pense que effectivement, de toute façon, ce qui est important, alors c'est éduquer, c'est l'ouverture d'esprit qu'on peut donner pour l'émancipation de la personne.
C'est
ça qui est important. Voilà, parce qu'après, effectivement, et la liberté, c'est de pouvoir choisir chacun ce qu'on a envie, ce qu'on veut, son avenir, etc. Mais c'est bien sûr que c'est important, l'éducation. Après, ce qui fait peur, c'est ce que nous disait Lou, hein, moi, cette manipulation perverse, quand même, on va dire. Hein, parce que vous êtes tous dans des domaines où vous êtes ouverts aux autres, et finalement, on donne une direction. Enfin, vous n'avez pas forcément, faut vraiment se battre pour choisir le sens de ce que vous avez envie, et puis de s'opposer parfois à ce qu'on vous dit, quoi. C'est pas...
Moi, je suis assez surpris de la réaction de vos professeurs. C'est-à-dire que de notre époque, j'allais dire, c'est un peu vieux, ça fait toujours vieux de dire ça, mais c'est vrai. Je pense que les professeurs étaient déjà à l'initiative de beaucoup de mouvements politiques et qu'ils n'étaient pas là pour nous enrôler, mais ils étaient là pour nous former. Et dans des moments de crise qu'il y a eu, hein, bon, j'ai pas connu 68, mais c'était les post-68 tard, mes professeurs, en tout cas, ils étaient là pour nous faire passer des choses, et nos convictions, bien sûr, mais aussi qu'on soit critique, mais en même temps, qu'on soit force aussi. Donc je voulais juste vous demander, est-ce que vous allez voter?
Oui, pour ma part, oui.
Faites passer le micro. Et sinon, pourquoi?
Oui aussi.
Et oui aussi.
Toujours oui.
Toujours oui.
Et oui, je compte voter aussi.
Mais malheureusement, j'ai l'impression que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne votent pas et ne s'intéressent pas à ce sujet-là, au sujet
politique.
La
preuve que non.
Et oui, la preuve que non, effectivement, on est peut-être peut-être les exceptions qui confirment la règle, je sais pas. Non,
mais
c'est
vrai qu'il y a beaucoup. Vous essayez de convaincre. Que disent vos camarades qui veulent pas voter? Parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des jeunes qui disent non, on peut pas faire confiance à un loup qui dort.
Je sais pas si j'essaye beaucoup de convaincre, parce qu'en fait j'ai l'impression que déjà pour convaincre d'aller voter, il faudrait pouvoir parler politique.
Oui, mais maintenant vous êtes plus en distanciel, vous avez quand même la petite
ouais, mais
le
en
petit
fait,
lieu pour
vous. Enfin, je suis dans un master qui est, tu vois, comme je dis depuis le début, qui est écolo, machin, etc. Mais en fait, allez, on a parlé politique les deux premières semaines, on a vu que le truc allait exploser, enfin que notre classe, notre groupe classe de 23 allait exploser. En fait, on parle politique avec les trois personnes qui pensent comme nous.
Non, mais c'est bien quand ça explose, hein. Il y a que dans les repas familiaux où c'est un peu compliqué parce que bon, il y a des ordres hiérarchiques, mais c'est aussi, c'est ça.
Ouais, mais en fait, c'est tellement, je pense qu'il y a une telle angoisse, de l'avenir. En fait, il y a chez ceux qui sont très politisés et très conscients une grosse angoisse. Chez les autres, un énorme sentiment de culpabilité enfoui, notamment sur la crise écologique, parce que pour moi, je remène souvent ça à ça, mais pour moi, la crise du Covid, c'est qu'une partie de la crise écologique, en fait. Et ça fait un peu peur, d'ailleurs, quand on voit que c'est peut-être le premier gros truc qui nous tombe dessus, et c'est comme ça qu'on réagit, donc ça laisse penser pour la suite. Mais en fait, ils sont pas capables de l'entendre. Ils veulent pas nous entendre parler politique, parce que nous entendre parler politique, c'est penser à quel point eux ne font rien, eux ne sont pas conscients, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils changent pour la suite, etc. Donc en fait, il y a une sorte d'hyperviolence qui arrive tout de suite dans le débat sans le vouloir, alors ouais. Qu'on est tous en psycho, que vraiment ça se sent.
Ah, c'est
dans
compliqué,
notre promo.
Ouais. Ça veut dire qu'en plus en psycho, on imagine dans le reste. Les gens n'arrivent pas à s'écouter en psycho, juste au moins pour.
Non, mais c'est vrai qu'il y a il y a vraiment une énorme bienveillance dans notre groupe classe, que je pense qui est en partie due à nos études. Et même là, on sent que petit à petit, on y arrive, mais qu'en fait, à part regarder l'autre de façon bienveillante, on n'arrive pas à faire bien plus en fait à l'heure actuelle. D'accord. Mais peut-être parce qu'il y a tant de tensions aussi dans l'air.
Par rapport à d'autres relations avec les autres et les politiques.
Bah ouais, moi ce que je relève aussi, c'est la difficulté à en parler. Pareil, nous, on est une toute petite promo, on est 15. En philo, on n'aborde jamais le sujet.
Vous faites pas de politique en philo?
Eh bah, non.
Parce que moi, j'y connais rien en philo, mais c'est pas un truc de grec ou ça.
Très, très peu. Et moi, j'ai été un peu déçu, par les cours de philo à la fac, où on est vraiment beaucoup, beaucoup dans retourner vers le passé. On va discuter de on va dire, bah, tiens, un tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça. Mais on est jamais dans le présent à discuter des conséquences de la société d'aujourd'hui et tout. Et dès que je commence à essayer d'aborder le sujet avec quelqu'un, ça va être tout de suite très tabou, tout de suite dans la méfiance et dans la, ah ouais, mais tes sources c'est lesquelles, patati patata, et dans la division. Et donc, je trouve que c'est très compliqué d'en parler. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est le désintérêt porté par toute une partie des gens vis-à-vis de la politique, à cause de la politique qui a été menée depuis des années, hein,
Bien sûr.
Et du coup on les gens ne se saisissent plus du peu d'outils qui leur reste, c'est-à-dire par exemple le vote, pour essayer de faire changer les choses. Et du coup, ce qui fait que les personnes qui nous représentent aujourd'hui sont élues par une toute petite majorité de la population, et c'est pas du tout représentatif. Et l'abstention, pour moi, c'est ça le danger, quoi. C'est que...
Ah, mais c'est toujours récupéré par quelqu'un. Ouais.
C'est ça.
Ok. En fait, on s'aperçoit aussi qu'il y en a d'autres qui se mettent à flamber. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils utilisent le contexte aussi pour flamber. Donc, il n'y a pas que le désintérêt.
Mm-hmm.
Il y a aussi la haine qui se met en marche.
Il y a de l'opportunisme.
En marche et en haine. Oui, nos artistes. La culture et nos artistes. Comment on pourrait motiver les gens, puisque vous êtes quand même tous à voter? Ce serait peut-être le mot de la fin. Que rassurer un petit peu d'autres jeunes. Nous, on peut, enfin, je dirais pas mieux placé que vous pour essayer d'en prendre deux, quoi, pour motiver deux. Je dis pas pour qui, mais pour qui voter. Hein, je me permettrai pas, mais au moins, si chacun pouvait en prendre deux, comme diraient certains, ça serait pas mal.
Bah,
Je pense que motiver les gens, c'est quand même très compliqué. Pour revenir, mais comme ça revient à ce que vous dites aussi, mais je pense que la censure, en fait, elle vient vraiment. On a réussi à emmener la censure, genre, chez nous.
C'est-à-dire qu'on
est, voilà. En fait, on est censuré dans notre groupe de personnes, en fait, enfin, dans nos promos et tout ça. On s'auto-censure entre nous et on s'en rend pas forcément compte, mais parce qu'on refuse de parler de plein de sujets, justement, qui sont plus ou moins tabous, en fait. Et donc après, bah oui, on retrouve de la censure à haut niveau, avec des comptes qui sont supprimés, des choses comme ça, mais le principal problème, c'est vraiment entre nous, c'est que c'est devenu normal entre nous de se censurer et de pas s'écouter quand on parle et de pas entendre les idées des autres et de pas accepter le fait qu'il y ait des opinions différentes non plus. Mais pour plein de choses, moi, avec des personnes de ma promo, il y a des fois où je peux pas caler des mots parce que ça va pas dans le sens de la discussion et où ce sera pas entendu dans tous les cas.
Alors la culture, dernièrement, il y a quelqu'un qui a été écouté parce qu'il avait tous les journaux et toutes les chaînes, Canal+, Bernard Arnault et tout le reste. En fait, il a fait non, mais non, pas du tout. Je manipule personne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que ça veut dire que ça risque d'être ton patron, finalement. Quelque part.
Non, mais je pense que il manipule personne si personne n'accepterait de se faire manipuler aussi et d'ouvrir les yeux. Donc la manipulation, elle vient à notre échelle. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça démarre vraiment genre entre nous. Ou déjà entre nous, on s'auto-manipule en fait. Donc forcément, après, c'est moins compliqué. On nous divise et c'est tellement pas compliqué. En amenant des sujets comme ça, en fait, on nous divise et du coup, on se retrouve à être beaucoup plus facilement manipulable. Et oui, je sais pas quoi. Oui, on nous enfin pour moi oui, on nous manipule, ouais. Mais je sais pas comment le compliqué.
La difficulté des soins là-bas. On va finir partout. Hein. Je te remercie. Moi, j'aimerais juste toi qui va être quelles tes convictions, pourquoi tu es allé vers le soin?
Du coup, moi, mes convictions, c'était pour aider les autres. D'accord. Donc le soin, c'est faire passer l'autre avant soi. Mais après, c'est compliqué justement de faire la part des choses et de réussir à garder ses convictions en voulant aider, parce que du coup forcément pour rentrer dans l'école, j'ai le droit au chantage de si vous n'êtes pas vacciné avant la fin du mois, la poursuite d'études ne sera pas possible.
D'accord.
Donc pour ça, j'ai dû mettre de côté ce que je pensais et accepter que bon, allez, on va se faire piquer une, deux, trois,
une fois qu'on
quatre,
se fait piquer
fois.
Une fois, deux fois, trois fois, tu te dis que tu mets quand même de côté ce que tu penses. Tu peux pas dire c'est compliqué quoi.
Non, c'est vraiment compliqué, on est très vite bloqué, on trouve pas de soutien au niveau des supérieurs et on se fait juste brimer et on n'est pas écouté, on peut pas s'exprimer sur ce sujet.
Eh ben merci en tout cas d'être là, présent en tout cas, et beaucoup d'espoir quand même pour nous, Annette, devant ces jeunes qui ont plein de choses à dire. Je sais pas s'ils ont fait esprit de dire qu'ils allaient tous voter, ça nous fait plaisir. Damien, qu'est-ce que t'en penses
de cette petite émission?
Super bien. Ce que j'aime bien, c'est la diversité et en même temps cette envie de lutter contre un truc essentiel qui est ce que tu viens de dire, l'interdiction. On va presque arriver à une interdiction de s'exprimer ou une auto-interdiction dans un premier temps de se dire pour pas me faire brimer ou quoi. Et après, ça va jusqu'où? C'est au final, vu qu'on est déjà dans la brimade, donc il suffit de dire ça, on n'en parle plus. Ça, c'est un sujet. Enfin, socialement, tu vois, ou même culturellement, il y a déjà, on se demandait pourquoi les artistes, le nombre d'artistes ne s'expriment pas, le lien au porte-monnaie, aux charges de chacun, enfin aux petites réalités de chacun, perso, moi je trouve que c'est plus un argument, mais ça reste très personnel, l'engagement, il s'efface déjà par cette auto-brimade, en fait, et par cette peur aussi de, je vais pas perdre non plus mon réseau social, enfin, basiquement. Après, ce que je pense de ces jeunes, c'est que ça fait plaisir et qu'on a de beaux jours devant nous quand même.
Okay.
Et que c'est un peu la fin du mois et le début du nous. Je dis ça, je dis rien.
Et alors là, tu t'enchaînes, non, voilà.
Eh ben, voix en expansion, hein, que les choses soient dites et écoutées.
Et portées. Merci, portée. À tous.
Merci à vous.
Merci. On peut s'applaudir, ouais. Ouais, on s'applaudit parce que.
Jeune et con, 16.
Thank you. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd encore. J'ai dormi tout le jour, je sais qu'on est quelques milliards.